Je m'appelle Béatrice Valdin-Constant, j'ai travaillé sur la restauration de nombreux films au moment où le cinéma est passé au numérique et qu'il fallait reconditionner les films afin que chacun puisse les voir en projection. Voilà. J'ai été directrice technique de Studio Canal pendant 15 ans et j'ai beaucoup travaillé avant chez Gaumont, donc j'ai une expérience des catalogues. Je vous expliquerai après ce qu'est un catalogue, un ayant droit et pourquoi on restaure les films et comment on les restaure.
Dans cette présentation, Béatrice, j'ai l'habitude de demander à nos intervenants quelles ont été les raisons de ce choix professionnel dans tes souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Qu'est-ce qui t'a fait amener à ce métier si particulier? Parce que vous êtes très peu nombreux en France, je crois, et je crois surtout que tu as été la première à assurer cette tâche de restauration de films.
J'étais une des premières parce que j'ai eu la chance de travailler pour Studio Canal qui avait un catalogue de 5000 films qu'il fallait restaurer, mettre aux normes. Donc j'étais effectivement une des premières à prendre les choses à bras le corps. Pourquoi mes premiers souvenirs de cinéma remontent, je devais avoir 5 ans et j'ai toujours adoré l'image. Ma mère m'emmenait, adorait les comédies musicales américaines et elle m'emmenait le jeudi après-midi. On allait au cinéma et on regardait les films. Et très tôt, je me suis dit, je ferais un métier de derrière l'écran. Parce que j'avais compris qu'il y avait l'écran, qu'il y avait des choses, mais que ces choses-là n'arrivaient pas toutes seules et simplement. J'ai fait de la photo pendant assez longtemps. J'avais un agrandisseur et tout. Enfin, j'avais besoin
de manier très jeune
l'image.
Et donc aujourd'hui, tu travailles dans quel secteur ?
Je suis toujours en activité et actuellement je travaille pour une filiale d'un grand laboratoire de restauration italien, Imaginary Trovata, qui est à Bologne, et je dirige la filiale française. J'ai moins de contacts avec la pellicule et place aux nouveaux restaurateurs et à ce qui se fait maintenant.
Dans le domaine cinématographique, quels sont tes goûts ? Est-ce que tu as un type de cinéma qui t'est plus familier ou plus...
Les films muets.
Tu es particulièrement touché par le muet et donc muet. C'est une des raisons aussi de ce choix de métier.
Tout à fait, ouais. Parce que voilà, tous les films muets ne sont pas encore restaurés, ne sont pas encore visibles. On en trouve tous les jours.
Le muet, ça s'est arrêté à quelle période?
Le son arrive en 1930, donc là, il n'y a plus de films muets.
Et du jour au lendemain, il y a des carrières qui s'arrêtent ?
Oui, pour certains comédiens, pour certains réalisateurs aussi qui ont du mal à
passer le pas.
À passer le pas.
Il y a eu des tentatives de sonorisation de films auparavant ?
Oui, tout à fait. La maison Gaumont avait inventé l'ancêtre du clip, on peut dire. On tournait l'image et sur un disque, on mettait le son à part. Et après, ils synchronisaient en faisant démarrer le son et l'image en même temps. Il y avait une synchronisation... L'image et du son. Et Léon Gaumont avait aussi inventé la couleur en 1913, avant l'arrivée de la couleur qui est en 1958.
Je crois qu'en 1900, il y avait eu à l'Expo universelle de Paris des essais de phono cinéma théâtre.
Ça s'appelait, chez Gaumont, ça s'appelait les phonocelles.
D'accord.
C'était des chanteurs comme Félix Magnol.
Donc on enregistrait leur voix et on passait un disque et... La synchronisation devait être un peu...
Non, ça marchait, parce qu'après, quand on a restauré ces phonoscènes, on a réussi en 35 mm à recréer...
Tu t'es occupé de ça ?
Oui, j'ai fait ça.
Alors, tu dis souvent, Béatrice, en fait, que le métier de restauratrice, ça a deux facettes.
Ça a plusieurs facettes. Ouais. Alors, tout d'abord, avant, il y avait du 35 mm, donc c'était simple. C'était une copie, un positif. Mais avant d'arriver à ce positif, il y avait le négatif caméra, c'est le tournage, c'est ce qu'on appelle le négatif caméra. Ensuite, ce négatif caméra a été monté avec les indications du réalisateur par un monteur, et on obtenait un négatif original, donc monté, dans la continuité. De ce négatif, on fait une image positive, qu'on appelle un interpositif neutre, qui est fait normalement pour conserver l'élément négatif original. Et de cet interpositif, on fait une autre image négative, qui est donc la troisième génération. Alors, je ne vous ai pas parlé du son, parce que le son, il est aussi sur pellicule en négatif son. Et les deux, l'internégatif et le négatif son, donnaient ce que vous voyiez avant au cinéma, c'est-à-dire la copie 35. Il y avait 3000 mètres de pellicule pour un film d'une heure et demie à peu près dans 10 bobines. Et quand on restaure un film, on commence toujours par un inventaire de tous ces éléments-là. Parce que si le négatif a disparu, il peut rester un interpositif. Si l'interpositif a disparu, on a l'internégatif. Il y a plusieurs facettes, comme tu me disais, parce que soit on restaure un film avec des historiens, avec des musicologues, avec le chef opérateur, avec un réalisateur quand il est toujours vivant, avec... voilà, donc ça c'est une des facettes de la restauration numérique. Et avec généralement le premier élément, c'est-à-dire on part du négatif original, et soit on fait ce qu'on appelle plutôt de la conservation, et on numérise par exemple un interpositif, qui est la deuxième génération, pour pouvoir rendre le film visible, parce que s'il est en 35 mm, maintenant vous ne pouvez plus le voir, qu'à la Cinémathèque française ou que dans des lieux distincts, le 35 mm doit être maintenant en numérique.
Pour les tout premiers films,
on ne faisait pas ces trois... Est arrivé assez tôt quand même en noir et blanc un support intermédiaire, mais au départ il n'y avait pas d'intermédiaire, donc c'était des copies. Mmh. Mélodie Trent était quand même plus solide que l'acétate qui arrive après.
Est-ce que tu t'es occupé, je crois que tu t'es occupé d'ailleurs, des films de Méliès ou des Frères Lumière?
Oui, j'ai eu
la chance. Tu as travaillé là-dessus?
Oui.
Et tu travailles encore là-dessus, ça t'arrive?
À l'heure actuelle, non, mais effectivement, j'ai travaillé avec Thierry Frémaux. J'étais directrice du patrimoine chez Claire Laboratoire, et là, nous avons restauré les premiers titres
de Lumière.
De Lumière.
Les vues tournées par Louis?
Par
il y a ouais. Les membres de sa famille,
tout à fait, oui.
les petits-enfants et les grands-enfants.
Enfin, qui dansent, qui mangent, qui goûtent. Il y a plusieurs restaurations parce que jusqu'en 2010, donc jusqu'à la projection numérique, il y avait des restaurations photochimiques. Je ne vous ai pas expliqué que jusqu'en 1950, le film était sur pellicule nitrate, donc explosive. Interdiction de diffuser le nitrate à partir des années 50. Et en 1991, le CNC a voté un plan de conservation de Jacques Lang à l'époque pour mettre tout le nitrate sur safety, pellicule safety qui n'explose pas.
C'est-à-dire que le support du film était tellement dangereux qu'il pouvait être auto-inflammable, c'est bien ça?
Il y a eu peu d'accidents, quelques-uns quand même.
Oui, c'est pour ça que donc, si vous aviez chez vous des films très anciens, sachez qu'il y a un réel danger potentiel à garder ces films chez soi comme ça, sans aucune protection. Alors, comme dit Béatrice, ça ne va pas vous exploser dans les mains comme ça, mais...
Mettre une flamme dessus.
Bon. Un coup de soleil, enfin, ça peut potentiellement être dangereux. Est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres que tu as pu restaurer?
Non, mais c'est pas la question que je me pose. Mais du coup, les films Lumière ont été restaurés une première fois en safety, tout ce qui avait été découvert à cette époque-là, puisqu'on a mis un certain temps à les rassembler. Pour la dernière restauration qui a été faite, elle a été faite en numérique à partir des films nitrate. Donc on a recommencé la numérisation du nitrate, du négatif original, à Bologne, en Italie, et on a fait la restauration numérique, c'est-à-dire qu'on a enlevé les taches, les rayures, enfin certaines rayures, en préservant l'image avec Thierry Frémaux, en France. Voilà. C'est Thierry qui a supervisé ce
travail de numérisation, des films tournés par Louis Lumière, mais est-ce qu'il y avait aussi des films tournés par ses opérateurs?
Parce que il y avait aussi des films tournés par les opérateurs.
C'est-à-dire en tout,
il y en avait 1300. Je crois que Thierry continue à restaurer. Parce que les 1300 ne sont pas tous en nitrate, je crois.
Oui.
Donc là, on s'est occupé de ceux qui étaient à restaurer à partir de la première génération.
Donc les premiers films tournés entre 1895 et 1897-98, tous ces premiers films...
Oui.
Sont maintenant sauvegardés.
Sauvegardés en numérique et visibles.
Donc les originaux, ils sont conservés.
Ils sont retournés aux archives du film.
D'accord, à Bois d'Arcy.
À Bois d'Arcy, dans les cellules nitrates.
Voilà. Donc les premiers films tournés par les opérateurs Lumière et Louis Lumière donc, sont conservés à Bois d'Arcy. Je vous en prie,
Bois d'Arcy, c'est bien le CNC, non?
C'est le CNC.
Oui, c'est le CNC, c'est les archives.
C'est une des annexes du CNC, à Bois d'Arcy, au fort de Saint-Cyr. C'était un lieu qui permettait de stocker toutes ces images dans un lieu sécurisé.
Ce travail de Studio Canal, on voit souvent sur des films restaurés, Studio Canal, ça a été fait à fond perdu, ou il y avait une idée de récupérer un peu d'argent avec ça?
Oui, c'était partie de l'économie d'un catalogue, de restaurer pour vendre sur des chaînes, pour vendre à des clients internationaux. Et Studio Canal a restauré une partie de ses films dans les premières restaurations sur ses fonds propres. Après, le CNC en 2012 a commencé à aider les catalogues ayant droit à restaurer leurs films, mais dans un premier temps, chacun a restauré sur ses fonds propres.
Les demandeurs, ce sont des privés, des agents publics, des chaînes de télé, des...
Tout d'abord, il y a eu une énorme demande quand on est passé de la VHS au DVD. Là, il a fallu tout refaire, puisque le support changeait. Donc, il fallait un nouveau support pour pouvoir faire un DVD et éventuellement un Blu-ray. Donc, on est passé du 625 lignes au HD. Et maintenant, on est en 2K, 4K, toujours pour le Blu-ray. Sauf que là, l'économie du changement VHS DVD a été énorme. Ça rapportait beaucoup d'argent. Maintenant, c'est pratiquement terminé.
Un catalogue, tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors, un catalogue, il y a de gros catalogues français qui sont Studio Canal, Pathé, Gaumont. Et après, il y a des catalogues un peu plus petits comme Argos, les films du jeudi. Ce sont des ayants droit qui ont des films dans leur catalogue et qui exploitent leurs films et qui restaurent leurs films.
Et est-ce que Studio Canal prend des droits supplémentaires sur son travail de restauration ou c'est une prestation de service qui est faite pour des ayants droit?
Studio Canal a des ayants droit puisque ce catalogue est particulier parce qu'il y a plusieurs sur un film il y a plusieurs ayants droit alors que Gaumont et Pathé sont en propre ayant droit de leur film puisqu'ils sont producteurs. Donc Studio Canal prévient l'ayant droit, travaille avec lui
et reverse
tout à fait aux ayants droit quand il y a vente.
Peux-tu nous donner un peu une idée des budgets qui sont alloués pour la restauration? Alors j'ai noté que un film comme Nana, de Jean Renoir, ou Moulin Rouge, qu'est-ce que ça représente financièrement?
Nana, c'est une restauration photochimique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on l'a mis en numérique, mais juste en haute définition. Enfin, je crois que maintenant, il a été restauré en 2K, donc on va pouvoir le voir en salle. Il est sur un support, sur un DCP, sur les nouveaux supports de distribution. Mais à cette époque-là, moi, je l'avais restauré juste pour la télévision et pour Arte. C'était une demande d'Arte qui voulait faire une soirée Renoir avec la diffusion de Nana. Et j'avais travaillé pour cette occasion avec Jacques Poitras, qui était un historien réputé et qui a reconstitué. Parce que quand on restaure un film muet, il y a plusieurs versions qui ont été diffusées à différents moments, à des années différentes et dans des lieux différents. Et on avait reconstitué à cette époque-là la version du Moulin Rouge, de la projection au Moulin Rouge, en 1926. Donc du coup, à ce moment-là, la restauration n'était pas organisée comme elle est maintenant. Maintenant, il y a des écoles, il y a des étudiants qui se forment, tout c'est devenu un métier. Et on ne faisait pas appel vraiment à des musicologues qui retrouvent les partitions, parce qu'à chaque fois que les films muets étaient joués, soit au Gaumont Palace, soit il y avait une partition. Donc on recréait la partition. Et on n'a pas retrouvé la partition pour le Moulin Rouge, pas assez complète. Et du coup, on a demandé à un musicien de refaire une partition. Quand c'est un film muet, il y a une histoire de cadence quand on ajoute la musique, puisque les films étaient diffusés entre 16 et 18 et 20 images secondes, alors qu'un film maintenant est diffusé à 24 images secondes. Donc on remet le film à cette vitesse et on écrit une partition.
Alors à l'époque, quand on projetait un film, donc tu recevais le film La Bobine, La Galette, et à côté, tu avais la partition pour jouer le truc.
Oui, un musicien, il y avait plusieurs musiciens,
tout était prévu, y compris la musique.
Il y avait de l'improvisation, je pense, parfois, sur des
longs métrages. La musique était prévue, donc il y avait une partition.
Complètement.
Et on sait un peu qui composait.
Je ne suis pas musicologue, il faudrait que tu invites un musicologue, ça serait très intéressant. Oui. Qui raconte parce qu'il y a des recherches, spécifiques à faire.
Oui.
Il y a Camille Saint-Saëns qui a écrit l'une des premières partitions pour film muet.
À quel moment vous avez commencé à travailler en tant que restaurateur? restauratrice avant, est-ce que vous avez fait un parcours spécifique?
Oui, j'ai étudié à Vincennes les techniques de cinéma. Après, je voulais être monteuse, mais chef monteuse, donc j'ai fait le cursus du montage. Donc là, au montage, on monte l'image, le son, la musique. Donc là, j'ai eu toute la palette de comment on fait un film. Avec Claude Sautet, par exemple, j'ai travaillé. Et après, je suis retournée à la Cinémathèque Gaumont, où là, j'ai travaillé les films anciens, avec des restaurateurs emblématiques de l'époque, enfin, l'ancien secrétaire de la Belle-Grance, avec qui j'ai restauré, par exemple, Léonce Ferret, enfin, une partie des Léonce Ferret. Donc là, on recréait les cartons. Enfin, c'était, tout ce que je vous dis, c'était dans les années 90, au début des années 90, avant le centenaire du cinéma. Ce sont des gens qui adoraient le cinéma, qui étaient historiens, parce qu'ils connaissaient absolument tout, et qui recréaient comme ça les choses. Sans... Il n'y avait pas de, comme il y a maintenant, des historiens qui disaient non, on fait ça, on fait pas ça, c'est ça. Ouais. Ouais.
Comment on recréait les cartons? Alors tu dis recréer les cartons là, pour les films d'Abel Gance.
Ah bah, à cette époque-là, on refaisait sur des bancs-titres. Il faut savoir que tous les scénarios sont déposés à l'ABN. Donc on récupérait les scénarios à la Bibliothèque Nationale et on recréait les cartons, on les recréait quand ils n'existaient pas. Sinon, sur un négatif original, on a les cartons, normalement. Ou alors si on n'a pas le carton, on a juste une image avec le texte. Ouais. Et il faut mettre l'image à longueur pour que le spectateur ait le temps de lire. Mmh. Et sur ces négatifs, on trouvait aussi les couleurs, puisque les films étaient teintés. Donc à chaque début de plan ou séquence, c'était noté séquence rouge, ocre.
Est-ce que ça t'est arrivé de restaurer un film à partir de plusieurs morceaux d'un même film?
Oui, Nana, c'était le cas.
C'est enfin, ça.
Absolument, les films muets sont un peu dispersés dans le monde entier. Et maintenant, enfin, maintenant et avant, quand on restaurait un film, on faisait appel aux cinémathèques du monde entier. Et parfois, les cinémathèques avaient une copie qui était complètement différente de celle de la cinémathèque française. La cinémathèque de Milan avait une autre copie. Et à cette époque-là, donc on réunissait toutes ces copies. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à faire la version 28 de Nana avec Jacques Conrad. Et alors maintenant, je n'ai pas travaillé comme ça, mais maintenant, le travail de certains chercheurs et de la FIAF, qui réunit un service technique, ils arrivent à lire l'année sur la pellicule. Donc on sait à quel moment la génération dont je vous parlais a été faite, et on sait en fonction des années à quelle date ça a été fait. Donc si c'est au moment même de la sortie de la copie ou après, ou... donc on travaille beaucoup plus scientifiquement. Je
crois qu'il y a un film de Georges Méliès, de La Terre à la Lune, qui a été colorisé, qu'on a retrouvé en Espagne.
Oui, tout à fait. Je n'ai pas vraiment travaillé sur celui-là. Oui. Mais ils ont trouvé une copie en Espagne complète, je crois. Donc c'est ce qui a permis de refaire la copie complète de ce film.
Et le film était colorisé.
Voilà.
Image par image, évidemment.
Oui, colorisé.
Tu m'avais aussi parlé du Roi et l'Oiseau.
De cette merveille dont j'ai eu la chance de travailler sur ce film avec la famille Grimaud, avec Paulette, sa femme, et son fils Henri. Donc, il avait fait un énorme travail, parce que toutes les restaurations, ça commence par l'archivage, de savoir quels sont les éléments avec lesquels on va travailler. Et le souci pour Le Roi et l'Oiseau, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce film, mais c'est deux films, c'est La Bergère et le Ramoneur et Le Roi et l'Oiseau. Et Paul Grimaud a passé sa vie à récupérer les droits de La Bergère et le Ramoneur, qui a été, entre parenthèses, pris par Prévert. Il ne voulait pas lui rendre le scénario, donc on ne pouvait pas le monter ni le tourner. Donc La Bergère et le Ramoneur a été conservé sur ce que je vous montrais tout à l'heure, l'interpositif neutre. À un moment donné, les laboratoires ont utilisé une pellicule qui était de très mauvaise qualité et on s'est retrouvé avec un élément très mauvais, plus de négatif. Et cet élément-là, et il a retourné la fin du film, donc en 1950, donc toute la partie 50 était magnifique, et toute cette partie-là était catastrophique, puisque cette pellicule, c'est mis à 52-49, se dégrade et disparaît au fur et à mesure du temps. Et de ce fait, on est allé en Angleterre, parce qu'on a retrouvé, il y a une façon de tourner, en tournant chaque couleur, le vert rouge, le trichromie, Et du coup, on a retrouvé ces bobines et on les a tirées en 35 en Angleterre. Donc on a oublié le 52-49 et on est reparti de ces éléments. Donc ça, c'est une restauration qui a eu lieu, je sais pas quand est-ce que, en 2003, je crois, ou en 2002. Mais maintenant, avec le numérique et les scans, ça serait beaucoup plus simple de reprendre tout ça, puisque le numérique alignerait beaucoup plus les trois couleurs pour la restauration.
J'ai un souvenir de ce film complètement ému. Ça a été tourné en 80.
Enfin, le film est sorti en 80.
Oui. Tout le monde connaît ça. Moi, il m'est arrivé un truc assez dingue avec ce film. Je sors du cinéma, j'étais à Lyon. Pourtant, j'étais un grand garçon, j'avais 20 ans. J'étais en larmes. C'est la première fois de ma vie que je sors du cinéma en larmes. Et je me rappellerai de ça toute ma vie. J'ai eu une petite dame qui est venue vers moi et qui m'a pris la main. Je n'arrivais pas à dire un mot. Quand tu m'as parlé de ce film, il y a plein de trucs qui sont...
Dans tout ce que tu dis, on voit bien qu'une restauratrice, ça ne travaille pas seule,
non,
en fait.
Déjà pas, non. D'abord, il faut travailler avec le laboratoire, puisqu'on ne peut pas travailler toute seule la pellicule. Et après, il faut travailler avec des historiens. Je trouve que c'est vraiment essentiel pour replacer l'œuvre dans le patrimoine, dans le temps. Quand il y a de la musique avec des musicologues, ce qui se fait sur de grosses restaurations, et avec l'ayant droit, puisqu'après tout, c'est lui qui va l'exploiter, et l'auteur, quand ils sont là.
Et du coup, tu as un réseau incroyable, parce qu'à chaque fois, tu te dis, pour tel film, comment tu sais, comment
regarde les génériques et je vais chercher le chef opérateur quand il est là, soit le réalisateur, soit l'ayant droit me présente la famille, et je travaille avec la famille.
Est-ce que tu es toujours bien reçu ?
Non, mais j'ai jamais eu de...
Jamais eu de problème.
Non, parce que du coup, quand on commence une restauration et qu'on commence correctement une restauration, on travaille dans la transparence. Donc dans la mesure où on dit ce qu'on va faire, comment, et qu'on voit l'avant, l'après et la continuité de la restauration.
Nous avions engagé une conversation la dernière fois que nous nous étions vus sur la grande illusion.
C'était une merveilleuse aventure. D'abord, elle avait commencé à Cannes avec la Cinémathèque de Toulouse. Donc, c'est pour ça que je travaillais pour Studio Canal. On décide de restaurer La Grande Illusion. Et la Cinémathèque de Toulouse avait le négatif original. On se met d'accord qu'on se voit en rentrant de Cannes. La première question, c'est que je me suis demandé ce que faisait La Grande Illusion, le négatif de La Grande Illusion à Toulouse. Normalement, elle aurait dû être à la Cinémathèque française, ou oui, comme c'était du nitrate, ou aux archives du film au nom de Studio Canal, mais voilà. Et alors d'abord, quand on ouvre une boîte de La Grande Illusion et qu'on a le négatif, ça fait un drôle de... Enfin, d'avoir envie de pleurer aussi, ça fait vraiment un drôle d'effet. Le négatif de La Grande Illusion a été... pris par les Allemands, fait partie d'une malle qui est partie en Russie en 1945, quand l'armée rouge rentre à Moscou. Ils rentrent avec des malles où il y a plein de négatifs originaux. Et avec tous ces négatifs, ils ont fondé la cinémathèque de la Fédération de la Russie, qui s'appelle le Gosfilm Fond. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc, au milieu de tout ça, il y a le négatif original. Et à un moment donné, le patron de la cinémathèque de Toulouse, qui s'appelait Monsieur Borde, qui était en relation avec le Gosmond Film, récupère ses boîtes, mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans, il les range, et un beau jour, quelqu'un prend les boîtes et s'aperçoit que c'est le négatif original qui était impeccable, magnifique. Du coup, on a travaillé avec ce négatif original, sans chercher d'ailleurs d'autres copies. Normalement, je m'entoure d'un chef opérateur pour l'étalonnage, et là, on avait... Alors, j'ai demandé à quelqu'un qui n'a pas voulu, donc ça m'a contrarié, mais on avait une très belle copie d'origine, et donc on a franchi exactement le même étalonnage que la copie. Donc, avec l'accord de Cinémathèque, et la Cinémathèque française est avec nous. Enfin, on est,
Alors, nous aussi, j'ai noté que tu t'étais occupé de la restauration de Fantômas.
Fantômas, c'était il y a très longtemps, et c'était
lequel Fantômas ?
Celui de Feuillade, oui. C'était la Cinémathèque Gaumont qui a restauré, comme je le disais avec l'ancien secrétaire d'Abel Gans, on a restauré tous les feuillades. Et on avait restauré pour un événement qu'on avait fait au Théâtre des Champs-Élysées avant le centenaire du cinéma. Et on avait restauré un film de Léonce Perret. Il y avait le Fantômas aussi. Et on l'a fait en photochimie. Donc on l'a diffusé en 35. Il y a un moment donné où on est resté longtemps en 35.
Tu t'étais occupé de Plein Soleil.
Oui, alors Plein Soleil, c'est aussi un film qui a été restauré. Alors là, ça fait partie de ces films où il n'y a pas de négatif original. Ils ont disparu, on ne sait pas où. Et du coup, on l'avait fait d'après l'interpositif. Donc là, c'est une autre façon de restaurer un film. Mmh. On pense toujours, quand on fait une restauration, que le négatif original va ressurgir. Et, mais c'est trop tard. Il y avait une obligation de sortie DVD, tout un événement à la Cinémathèque française. Mmh. Parfois, on retrouve des sons, des magnétiques, des mixages dans les câbles des réalisateurs.
Fritz Lang avait gardé tous ses films.
Il avait gardé tous ses
films. Et Lottie Eisner, qui travaillait à la Cinémathèque, les a tous fait rentrer à la Cinémathèque de Langlois. Je ne sais pas s'ils y sont toujours.
Je pense, oui. Il y a pas de raison.
Lottie était une dame extraordinaire. Elle passait à la Cinémathèque prendre son courrier. Elle avait une table, une chaise, une boîte à lettres. Et c'est tout ce qu'elle faisait. Mais elle passait le reste de son temps à voyager dans le monde entier. Et Fritz Lang, qui était un copain, est allé le voir en Californie pour obtenir ses bobines, qui sont ensuite rentrées en France. Oui. Les sinécures ont parfois du bien.
Absolument.
En fait, moi, à chaque fois que je t'entends parler de restauration, il y a quelque chose qui me frappe. On est toujours avec la question du choix. Jusqu'où on va choisir de toucher, de ne pas toucher? Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce que...
Le choix du film, d'abord.
Alors, le choix du film, il est fait par les ayants droit et par, comme je disais, à la demande. Par contre, dans des temps reculés où j'ai Studio Canal, j'avais la chance de pouvoir faire des éléments sur des éléments qui étaient en décomposition, parce que le nitrate se décompose, certains supports se décomposent, et quand je faisais l'inventaire des éléments et que je voyais qu'un des éléments était en train de se décomposer, j'intervenais et je faisais le safety sans aucune... C'était mon choix à moi, comme j'ai toujours considéré qu'un film, on ne devait pas choisir, c'est complètement personnel, que dans 50 ans, je ne sais pas qui sera heureux d'avoir ce film conservé, même s'il n'est jamais ressorti et qu'il est toujours en train de dormir au même endroit, mais au moins il sera là. Maintenant c'est de moins en moins possible parce que c'est très cher. Ce qu'on peut faire, c'est numériser.
Mais il y a aussi le choix de l'attache qui est là, le petit cheveu qui est collé, je le laisse pas. Fin...
C'était très intéressant de travailler avec Thierry Frémaux sur les lumières, parce que les films sont très abîmés. D'abord, en numérique, il faut faire attention de garder l'image dans son intégrité, pas l'abîmer. Donc, il y a un moment donné, si vous avez une rayure et que vous enlevez la rayure, en numérique, ça va se voir.
Ça va se voir.
Tu auras une espèce d'artefact, c'est pas très beau. Donc, le choix, il doit se faire dans un premier temps, il se fait en fonction de l'image. Après, le téléspectateur ou le spectateur a peut-être pas envie non plus de voir un film avec galerie. Donc...
Est-ce que dans ton travail, une fois que tu as restauré ces images, est-ce qu'il y a aussi une pratique de conservation de l'original tel qu'il était au début? Entre guillemets, est-ce que c'est réversible, comme dans certaines restaurations?
Oui, tout à fait. L'architecture. Oui, normalement, ça devrait être réversible, sauf que cette réversibilité a un coût. Et que parfois les producteurs n'ont pas l'argent pour pouvoir. Mais dans l'absolu, on essaye de refaire un support 35, qui est quand même celui qui dure un siècle, et de pouvoir repartir de ce support 35 avec les données numériques.
Donc le support 35 est en l'état, et ensuite il y a la numérisation.
Et on remet la numérisation sur un autre support.
Sur un autre
support 35.
Tout ça, c'est projeté aussi dans des cinémathèques, pas qu'en France. Il y a une forte demande internationale aussi.
Oui.
On a une vraie politique de conservation politique.
On est les seuls en France à avoir cette politique. Oui, le CNC est très attentif à l'image.
Tu parlais de Thierry Frémaux tout à l'heure, des films Lumière. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur le festival Lumière à Lyon, qui, toi, a une importance.
Depuis 10 ans, Thierry Frémaux organise le festival Lumière à Lyon, où sont projetés tous les films restaurés de l'année. Donc, on a une palette entière de films restaurés, qu'on peut voir et revoir.
Est-ce que ça existe un cercle de restaurateurs à travers le monde?
Je ne fais pas partie de ce genre de choses, mais ça existe maintenant. par les formations, il y a les restaurateurs de la FIAF, Fédération internationale de toutes les cinémathèques du monde, dont un département technique où il y a des restaurateurs de cinémathèques. Parce que maintenant, les restaurateurs sont à l'intérieur des cinémathèques et identifiés en tant que tels, sont directeurs des collections. Certains ayants droit ont des gens qui s'occupent de leur restauration, mais il n'y a pas de cercle comme ça, privé.
Est-ce que la France a été pionnière dans la restauration ?
Oui, du fait du travail des cinémathèques, qui est quand même assez exceptionnel en France. Cinémathèque de Toulouse, je pense à la Cinémathèque française. Ils ont fait un énorme travail de restauration, de conservation, et un énorme travail patrimonial. Parce qu'ils avaient aussi des collections énormes, grâce à une loi.
Mais c'est sûr qu'il a sauvé la mémoire du cinéma. Hein. Il y avait un autre personnage aussi dont on parle très peu, c'est Victor Perrault. C'est quelqu'un de très peu connu. C'est le grand-père de la Cinémathèque française. En 1910, il habitait Montmartre. Et en 1910, c'est un des premiers qui a songé à créer une cinémathèque. Et c'est la BHVP qui est à côté, là. La Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui devait gérer ses collections. C'est un personnage qui est mort à 99 ans, en 1962. C'est vraiment un type assez formidable.
L'idée de conservation, Henri Langlois l'a eu très tôt. Il l'a eu avant tout le monde. De récupérer les copies en se disant qu'il aurait...
Conservation, certainement. Mais la restauration, les Américains n'ont pas pris l'avance sur nous.
Non. Alors, les Américains, c'est particulier. Nous, on cherche quand même tout le matériel. À chaque fois qu'on fait un film, il y a tout un travail de recherche. Tandis que les Américains, ils ont tout dans les sous-sols. Enfin, Warner, il a tous ses films en dessous, enfin, si je puis dire. De ce que j'ai vu, ils ont tout le matériel leur appartient et tout est là.
Est-ce qu'ils sont très actifs aujourd'hui dans la
Oui, parce qu'ils sont obligés de rééditer des Blu-ray, ils sont obligés de matérialiser les films en DCP pour les projections, donc ils refont. Je ne pense pas qu'ils restaurent comme nous. Ils restaurent leurs films. De toute façon, tout le monde, le monde entier, est obligé de mettre des films en DCP. Parce que sinon...
Oui, puis il y a des grandes figures. Il y a Scorsese qui fait un grand travail.
Avec sa fondation, il fait un gros travail de restauration.
J'ai une question pour la télévision. Enfin, je pense par exemple à des téléfilms qui ont été importants. Est-ce qu'ils font des restaurations ?
Non, là c'est Lina. C'est Lina qui a les droits.
Il y a
un service de restauration.
J'ai vu des choses pour analogie des années en noir et blanc. C'était pas beau.
Non, c'est pas beau. Il y a plusieurs choses parce que ce qui a été tourné en vidéo, c'est problématique. Avant la vidéo, assez longtemps d'ailleurs, alors je ne sais pas quand ça s'arrête. Mais il y a énormément de films, de séries ou des épisodes ou des films militaires qui sont en 16. La télévision, au début, c'était en 16 et en 35. Quand on travaillait un film pour la télévision, enfin, il y avait ce qu'on appelait la copie antenne. Donc on tirait une copie, la dernière, là, l'exploitation, et après il y avait la copie antenne qui partait à la télévision. Donc il y a des choses en 35. Mais tout ça est à l'INA, et c'est énorme.
Par rapport à la conservation, si on regarde vers le futur, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ?
On sait que le numérique, c'est comme pour nous, simples mortels. Si vous voulez garder vos photos, c'est exactement le même problème. Donc il faut vérifier de temps en temps que le support numérique sur lequel vous avez mis vos photos s'ouvre toujours correctement. Pour la conservation des films, donc il y a des plateformes qui ont été mises en place par des privés, par certains catalogues, où sont conservés numériquement les films. Mais il faut quand même faire attention, et tous les 3-4 ans, vérifier que ça s'ouvre bien, passer au matériel un peu plus au-dessus, puisque l'obsolescence du numérique est programmée. Donc les films, par exemple, qu'on met sur un support numérique LTO 6 maintenant, si vous avez du LTO 1, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Il faut faire attention à ce que ce soit...
Réactualiser tous ces modes.
Tout à fait.
Quand tu restaures un film, tu te dis que tu travailles à quoi ? À 50 ans ? À 100 ans ?
Moi, j'espère que je travaille à un siècle, parce que sinon, voilà. Après.
La première fois où j'ai vu La Grande Illusion, c'était gris sur gris. Comment faites-vous techniquement pour approfondir les noirs, blanchir les blancs ?
Alors, ça, c'est l'opération qu'on appelle l'étalonnage. Et quand on part du négatif original, on a toute cette palette, tout est là. Et là, on peut travailler. La dernière restauration, le film est magnifique. Et au niveau du son, parce qu'on parle très peu du son dans la restauration, et au niveau du son, on a, comme maintenant on scanne le son, le spectre est beaucoup plus large. On a même réentendu des phrases qu'on n'entendait plus, qui étaient complètement comprimées par le négatif son, enfin par la compression du négatif son.
Par exemple, le son optique, on a que... Alors, ce qu'il y a sur juste, le véhicule ou
il y a beaucoup de films où on ne récupère hélas que le négatif son. À partir des années 50-60, on récupère ce qu'on appelle le magnétique, qui sort du mixage, le premier matériel magnétique. Mais c'est très rare, et le magnétique se conserve mal, la pellicule s'en va, c'est particulier, c'est un nettoyage. Et on est très content quand on a le magnétique, parce que c'est beaucoup moins compressé que le négatif son.
Une question, oui, parce que c'est le son qui vieillit le plus.
Oui, je suis d'accord.
Et quand vous restaurez, est-ce que vous arrivez à remettre le son
On ne peut pas le remettre comme vous voulez l'entendre, comme un son maintenant. Non, vous forcément, on restaure et forcément, ce que vous entendez, c'est le maximum qu'on a pu faire. C'est vrai que ça n'a pas la même beauté qu'une image restaurée, mais on ne peut pas aller au-delà. Parce que alors là, restaurer un son, si vous allez trop loin, c'est une catastrophe. Les voix perdent leur timbre. Je pense à Pierre Fresnay, c'est comme il a une voix extrêmement grave. Dès qu'on touche à sa voix, quand on restaure trop, c'est terminé, c'est plus la voix de Pierre Fresnay, donc vous avez un autre comédien. Non, on ne peut pas, hélas, quand vous voyez un film restauré, vous avez toujours un son un peu décalé. Et aussi parce qu'on n'a pas l'élément original, on n'a que le négatif optique. Donc forcément, on parle de la troisième génération.
Pour conclure... Je pose souvent quelques questions sur l'avenir et sur le passé. Donc, j'aime bien cette question qui ne veut rien dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos 20 ans, cher ami?
Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Donc, tout va bien. Oui, absolument.
Est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir pu avoir en main certains films ou que tu peux espérer encore pouvoir restaurer? Qu'est-ce que tu rêverais de restaurer comme film?
Pas vraiment de restaurer des films.
Chaque film est un bonheur
important et
Il y a des films que l'on a totalement perdus et qu'on rêverait de retrouver.
Il y a des listes de films qu'on rêve de retrouver.
Oui.
Alors j'ai pas de titre. Il y a une liste. Je crois qu'il y a un film avec Gabin, un de ses premiers qui a disparu. Et tout le monde rêve de tomber sur son négatif.
La règle du jeu a été restaurée.
Oui, par Pathé, c'est un film Pathé.
Ça revient à combien la restauration?
Alors ça revient entre 30 000 euros à... Ça peut aller très jusqu'à... Ça dépend de film, jusqu'à 100 000 euros.
Est-ce qu'il arrive que de particuliers vous apportent des bobines de fil?
Oui, tout à fait.
Oui.
Généralement, ce sont des films de famille. Donc c'est intéressant pour l'époque, pour l'histoire.
Merci infiniment.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Merci à Aline de m'avoir secondé.